Nous allons entreprendre un sujet très sérieux. On ne peut pas se permettre de rire avec le sujet que l'on va aborder, pour la simple unique raison que des millions de familles souffrent parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Alors nous allons commencer par trois lectures. Nous en ferons plusieurs au fur et à mesure de ces six réunions qui seront le dimanche, dont trois dimanches et normalement trois mardis, où nous aborderons le couple, la famille, les conflits, comment gérer certains conflits, ça devrait être si simple. Et on va le voir avec la parole de Dieu. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8, il y a tout un enseignement sur la parabole du semeur qui correspond à l'état du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme revêt plusieurs aspects. Luc chapitre 8, verset 13, nous parle de cet homme qui écoute la parole de Dieu d'une bonne manière quelque part, mais ça ne suffit pas. Luc chapitre 8, verset 13. Pendant que vous cherchez le texte, si au fur et à mesure de ces réunions, car ça peut prendre un petit peu la forme de séminaire, vous deviez avoir des questions, s'il vous plaît, notez-les sur un papier et communiquez-les-moi après ces réunions. Comme ça, je pourrai y répondre, ça pourra peut-être faire du bien à plusieurs. Luc 8, verset 13. Regardez, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent, mes frères et sœurs, avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Je vous lis ce verset pour vous dire que, pardon, recevoir la parole avec joie, ça ne suffit pas. C'est bien déjà qu'il y ait une joie de partager la parole de Dieu. C'est la vérité, nous sommes des chrétiens, nous avons un réel respect des choses spirituelles, de la parole. Mais moi je vous dis, parce que c'est Jésus qui l'a dit, recevoir la parole de Dieu avec joie, ça ne suffit pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la profondeur. Il y a une émotion, il y a une réelle satisfaction, une autosatisfaction, mais ça ne suffit pas. Il faut bien l'expliquer. Beaucoup de chrétiens, des fois, se réjouissent, mais il n'y a aucun changement. Pourquoi ? Parce qu'il faut être, comme on l'a lu dans Ésaïe, attentif à ce que Dieu a à nous dire ou à nous répéter. Par contre, le verset 15 exprime l'état de cœur qui permet à Dieu de bénir sa parole. Nous l'avons très très bien entendu par les cantiques, et d'ailleurs je remercie la chorale pour les cantiques que vous avez chantés. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, bon, il ne parle pas de joie là, il n'y a peut-être pas tellement besoin en fin de compte, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Béni soit Dieu, moi je l'ai cette autosatisfaction de lire la Bible, cette joie, je l'ai. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas, je mentirai. Il y a, je crois, on peut recevoir avec joie la parole de Dieu. Mais Jésus est formel, ça ne suffit pas. Il y a des pierres qui doivent être enlevées. Il y a des choses qui doivent être comprises et nous allons travailler à cela. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir prié. Nous allons prendre un verset, deux versets. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Un verset qu'on ne lit plus aujourd'hui, que beaucoup de jeunes ne veulent plus lire. Que beaucoup de croyants n'acceptent pas, et on va voir que c'est pas bon signe quand on commence à rejeter certains versets de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Voilà. Nous y reviendrons tout à l'heure. Hébreux chapitre 13. Verset 4. Qu'est-ce que Dieu demande en ce qui concerne le mariage ? Hébreux chapitre 13, verset 4. Ça nous sert d'introduction pour comprendre un petit peu mieux pourquoi les gens veulent Pourquoi le mariage? Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et je peux vous dire que dans notre société, on en est loin de cette parole. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. La souillure, ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles, bien entendu. On y reviendra, j'expliquerai au fur et à mesure. Je répète, que le mariage soit honoré de tous. Si Dieu, mes frères et sœurs, nous demande d'honorer le mariage, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça ne peut pas en être autrement. Tout ce que Dieu demande est bon. Le jour, mes frères et sœurs, où nous écouterons avec un cœur honnête, sérieux, pas se prendre au sérieux, ça c'est du cinéma, avec un cœur honnête, le jour où nous serons attentifs, c'est-à-dire que nous dirons, mais derrière chaque conseil de Dieu, il ne peut y avoir que de l'intelligence. Vous êtes d'accord avec moi? Derrière chaque commandement, dans chaque instruction, il y a la sagesse de Dieu. Et le mariage, il faut le prendre au sérieux. Si Dieu dit « honorer », que tout le monde honore le mariage, et même si vous étiez là, que vous ne connaissez pas encore la grâce de Dieu, ce verset de l'Écriture peut vous aider à déjà reconsidérer certaines choses, que le mariage soit honoré de tous. Il y a quelque temps de cela, j'ai fait justement un séminaire sur le mariage, et j'ai commencé le séminaire avec une question. Que cherchons-nous dans le mariage? Nous avions le temps, nous avions 4 ou 5 jours, nous étions ensemble, et j'ai posé un papier, on n'a pas le temps de le faire là, mais que cherchons-nous dans le mariage? Alors ne me répondez pas, mais je vais vous dire les réponses que j'ai eues. Que cherchons-nous dans le mariage? Vous les jeunes qui êtes là, qui avez envie de vous marier. Oh, vous savez, hier, à la prière, ça m'a fait sourire et ça m'a fait réfléchir. Il y a une sœur qui est là, elle est pas loin de moi d'ailleurs. Elle a prié, et dans sa prière très spontanée, elle a dit quelque chose qui résume bien un vrai problème. Elle a dit, tu vois Seigneur, vous me reprenez si je l'exagère. Seigneur, tu vois, le mariage, pour beaucoup, c'est comme une ville assiégée. Ceux qui sont dehors, ils veulent rentrer, et ceux qui sont dedans, ils veulent sortir. Quand elle a prié, j'ai mis ça derrière l'oreille, et je me suis souvenu de cette époque où j'étais pasteur en Polynésie, où il y avait dans l'église une soixantaine de personnes, de femmes, qui étaient venues me trouver. Sur la soixantaine, il y en avait une trentaine qui étaient célibataire, et sur la soixantaine, il y avait la trentaine qui était mariée. Et dans l'affaire de 6 mois, je crois que Dieu a voulu ces choses pour que je comprenne que ce sujet est sérieux et ça nous pousse à le traiter. Cette trentaine de célibataires voulait à tout prix se marier, et la trentaine des mariés ne voulait plus l'être. Et je vous assure que c'est vrai. Ça fait réfléchir, et je crois tout simplement que c'est la volonté de Dieu que le mariage soit honoré, que le mariage soit béni, nous allons le voir. Mais je pense très sincèrement, pour faire simple, que beaucoup de personnes sont comme ça par rapport au mariage, c'est qu'ils voudraient comme construire une maison. Imaginez quelqu'un qui ne s'y entend rien en maçonnerie, rien, à qui on dit, voilà, je veux que te donner une belle maison, mais il te faut la construire. Et on la construit seul, sans maçon, sans ouvrier. On l'a construit sans aide. Et le résultat, c'est que des malfaçons, c'est la catastrophe. Et Dieu veut que nous construisions des couples et des foyers bénis, mais si nous ne sommes pas attentifs à certains versets de l'Écriture, vous savez, quand Dieu dit déjà que le mariage soit honoré de tous, ça pourrait peut-être, on pourrait déjà faire attention lorsqu'on parle de mariage. Parce qu'il y a des chrétiens, il faut voir des fois comment ils parlent du mariage devant leur femme. Le mépris qu'ils ont pour leur conjoint. On en reparlera dans les conflits. Que cherchons-nous dans le mariage? Alors, je vais vous livrer les réponses comme elles me sont venues sur les questionnaires. L'amour. Oui ou non? Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est les gens qui l'ont dit. L'amour, la paix. Qu'est-ce qu'on cherche dans le mariage? La joie, le bonheur. La sécurité. La compréhension, une écoute. La possibilité de s'exprimer pour dire tout ce qu'on ne peut pas dire aux autres. On cherche le dialogue. Et on cherche à vivre sa sexualité dans le cadre prévu par Dieu. Et j'imprécise ce que je dis parce qu'il faut quand même bien l'expliquer de la manière la plus biblique qui soit. Il n'y a pas de péché dans la sexualité dans le cadre du mariage. Paul dit aux Corinthiens que que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et vice-versa. Et ne vous privez pas l'un de l'autre. Il y a un enseignement très sobre, mais suffisant pour comprendre que la sexualité est quelque chose de sain, je le répète, dans le cadre du mariage. Alors, dans ces réponses, on pourrait quand même faire attention de ne pas aller trop loin et de chercher dans le mariage ce qu'on ne peut trouver qu'en Dieu. Parce que je crois qu'on trouve beaucoup de choses dans le mariage. Mais il ne faudrait pas idéaliser l'autre et penser que l'autre va nous donner ce que seul Dieu peut nous donner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désillusions parfois, parce que l'un attend de son futur conjoint ou de son conjoint des choses qu'il ne pourra pas lui donner. Et de là naissent des frustrations. Moi, je crois qu'il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut les donner. Vous ne le croyez pas, mes frères et sœurs? C'est certain. N'attendez pas quand même que l'autre vous donne certaines choses. Bien sûr qu'il doit vous apporter de l'amour, qu'il doit vous procurer la paix, mais il y a des choses que nous n'obtenons que lorsque nous sommes dans une réelle communion avec Dieu. Et il faut faire très attention de ne pas demander à l'autre ce qu'il ne peut pas nous donner. Ça, c'est pas sérieux. Après le salut de l'âme, la question la plus importante à régler sur la terre, bien sûr que le travail est très très important, mais je crois que c'est le choix d'un conjoint. Et aujourd'hui, c'est un problème. Moi, je vois combien les gens, souvent, ne nous écoutent pas, combien les gens n'en font qu'à leur tête. Pourquoi ? Parce qu'ils privilégient certains aspects au détriment des autres. C'est un vrai problème, mais qui dit problème dit également solution. Il y a la solution. Je voudrais que vous compreniez que tout ce que nous allons voir, même s'il faut dire certaines choses, même si les statistiques sur le divorce sont vraiment alarmantes, il y a la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Et il y a toujours, si l'on est sérieux, je dis bien si on est sérieux, je crois que Dieu va nous aider. Si tu étais attentif, tu seras béni. Ceux qui écoutent avec un cœur honnête ce matin, vous allez peut-être entendre certaines choses. Je pense surtout à ceux qui veulent se marier, les adolescents qui sont là, les jeunes qui sont là. Combien je voudrais que vous preniez au sérieux ces choses. Ce sont des principes bibliques. Et je le répète, derrière chaque principe biblique, il y a l'intelligence de notre Seigneur qui a fait que tout ce qu'il nous demande est bon pour nous, croyez-moi. L'origine du premier couple, on va commencer quand même par le début. L'origine du premier couple, Genèse. On va lire un petit peu, Genèse chapitre 2, nous allons lire verset 7. Il faut quand même lire un peu ce que nous allons voir ce matin. C'est un petit peu ce que nous avions vu il y a 2 ans, mais je suis obligé de passer par cette étape, sinon si je commençais par la deuxième étude, on ne comprendrait pas tout. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 2 ans, quand j'avais fait cette étude sur le choix d'un conjoint. Comment choisir son conjoint? C'est pas une mince affaire, ça. Les jeunes qui étaient célibataires, c'est pas vrai, ça? Vous savez que c'est vrai. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Verset 20, « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Amen. On a parlé de l'agneau ce matin dans tous les cantiques. Ça a commencé ici, là, dans le verset 21 du chapitre 3 de la Genèse. Un agneau qui a été sacrifié pour couvrir la nudité qui représente la nudité spirituelle de l'homme, mes frères et sœurs. Donc, nous voyons que Dieu a voulu le couple pour qu'il vive dans l'harmonie. C'est important que dans un couple, il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de la compatibilité. Je lui ferai une aide. Dans certaines versions, c'est « je lui ferai un vis-à-vis », une aide qui sera semblable à lui. Semblable, ça ne veut pas dire qu'on est identique. Il faut bien l'expliquer, ça. Tout nous pousse. Vous savez, quand on parle souvent de parité, quand on parle d'égalité, on veut que tous les hommes soient identiques. Il est hors de question que Dieu veuille que nous soyons identiques. Nous sommes semblables, nous sommes égaux, mais nous ne sommes pas pareil. Nous avons d'énormes différences, ce qui crée une véritable complémentarité, une véritable bénédiction. On est différent au plan physique. Est-ce que l'homme ressemble à la femme ? Est-ce que l'homme est physiquement plus fort que la femme ? Ben oui, c'est clair. L'homme est 5 fois plus fort que la femme. Tenez-vous bien, ne vous inquiétez pas, les hommes, on va charger. Croyez-moi. Mais physiquement, l'homme, c'est prouvé, est 5 fois plus fort que la femme. Mais Dieu l'a fait pour que nous puissions vous aider, faire tous les travaux et vous protéger, bien entendu. Mais vous comprenez bien qu'il y a des différences physiques, psychologiques. La femme est beaucoup plus émotive, sensible que l'homme. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Combien de fois nos épouses, sérieusement, nous ont mis en garde à cause de leur émotivité, qui peut se transformer en sensiblerie qui n'est pas bonne. Mais il peut y avoir une émotivité qui provoque une vraie sensibilité. Et combien de fois, mes frères, nous avons été bénis à cause de nos épouses qui nous ont mis en garde parce qu'elles étaient sensibles. Nous, sur le coup, on a dit, mais qu'est-ce que tu regardes ? Mais n'importe quoi. On n'a pas fait comme ça, des fois. Allez, les frères, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est pas vrai, on ne l'a pas fait, ça, plusieurs fois. Et puis, en fin de compte, elles avaient raison. Mais dans d'autres domaines, elles se sont bien sûr trompées. On en reparlera. Mais s'il n'y a pas cette prise en considération des différences, on va avoir du mal à comprendre justement cette complémentarité. Il y a égalité, mais différence. Dans le seul but de prévoir justement une grande bénédiction. Donc, je lui ferai une aide qui sera sa correspondante, son vis-à-vis. Il faut s'harmoniser, il faut travailler à la compatibilité. Vous savez, l'amour, c'est un grand sujet, l'amour. Vous écoutez Radio Nostalgie. Non, mais sérieusement, vous écoutez à longueur de journée que des chansons sur l'amour. Je t'aimais, on s'est quitté, je reviens, ne pars plus. Non, mais on rigole. Mais vous savez que ce ne sont que des chansons qui produisent une espèce de mélancolie. Moi, je ne suis pas contre. Ça m'arrive, ne le dites à personne, que ça ne sorte pas d'ici. Mais des fois, ça m'arrive 5 minutes d'écouter une vieille chanson comme ça. C'est pas bon, c'est peut-être pas bien, je sais. Mais je réfléchis à ce que ça peut avoir sur les gens. Ça n'amène pas, je crois, la bénédiction. Ça amène la mélancolie. Ce n'est pas forcément bon. L'amour, dans le couple, il est basé sur la correspondance. C'est un grand sujet. C'est un sentiment, l'amour, on le voit, c'est clair. Je viens de faire allusion aux chansons mélancoliques. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin. On le confond avec tout un tas de sentiments qui peuvent être confondus avec l'amour. La pitié, est-ce que c'est de l'amour ? Alors voilà, c'est pas de l'amour. Alors, quand Jésus a pitié de quelqu'un qui est là sur le bord du chemin, est-ce que c'est pas de l'amour ? Alors, bon. Il a pitié, pourquoi ? Il y a des situations qui inspirent de la pitié. Vous voyez quelqu'un là, blessé sur le bord du chemin, vous voyez quelqu'un de malheureux, ça vous inspire de la pitié. Le péché nous inspire de la pitié. La souffrance nous inspire de la pitié, etc., etc. Mais on ne se marie pas par pitié. Et il y a des garçons ou des filles qui savent développer un sentiment de pitié. Moi, j'ai vu une jeune fille qui est venue me voir. Vous savez, tout ce que je vous dis, c'est le résultat d'expériences douloureuses, bien souvent. À un mois du mariage, 2 mois du mariage, je l'ai questionnée. Je lui ai dit, à la fin de l'entretien, je vous fais court, bien sûr. Elle m'a dit, mais monsieur Gault, il me fait pitié. Et j'ai dit, vous allez vous marier par pitié? Eh bien oui, monsieur Gault. Il me dit que si je le quitte, il va se suicider. J'ai pitié de lui. Mais j'ai dit, malheureuse. Mais ça existe, ça, aujourd'hui. Ça existe parce que on confond certains sentiments. La pitié, c'est de l'amour. J'ai compris quand notre sœur a dit non, dans le sens où on ne peut pas le cataloguer que de l'amour. C'est normal d'avoir pitié, mais on ne se marie pas par pitié. Les jeunes filles, faites attention. Ne cédez jamais à quelqu'un qui vous fait du chantage. Quelqu'un qui vous fait du chantage ne vous aime pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on aime quelqu'un, on le respecte. On verra dans les conflits, on ira plus loin. Je vous demande de prier pour cela, parce que je voudrais que ça serve aux jeunes qui se sont fait piéger, qui risquent de se faire piéger. Je le répète, on ne se marie pas par pitié. Est-ce que la compassion, c'est de l'amour? Oui, c'est l'amour. Et combien se marient juste par compassion? On a compassion de la personne. Il y a une situation qui inspire de la compassion. On ne se marie pas par pitié, on ne se marie pas par compassion. Et écoutez-moi bien, on ne se marie pas parce que l'autre nous a dit, le Seigneur m'a révélé que tu allais te marier. Ne riez pas, je vous le dis sous forme d'humour, mais je peux vous dire que j'en ai vu pleurer dans mon bureau, croyez-moi. Si Dieu veut que vous vous mariez avec quelqu'un, il vous le révélera à vous, moi je vous assure. Je comprends que notre désir, c'est de travailler dans la spiritualité. Mais Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné du bon sens, Dieu nous a donné de l'intelligence. Et quand il veut dire quelque chose à quelqu'un, il le lui dit. Il peut le confirmer par d'autres, mais moi j'ai vu des jeunes pleurer parce qu'on les a trompés. C'est vrai que les adultes, des fois, on aimerait bien que certains jeunes se marient avec tel autre, etc. Mais ce n'est pas pourtant une révélation du Seigneur. Et le problème, c'est qu'on a fait des dégâts parce que il y a quelques années de ça, il y a un jeune couple qui vient me voir. C'est pour vous expliquer, je vous donnerai des situations pour vous expliquer que ça va loin. Et quand je les ai vus, ils sont venus me voir pour le fixer le jour de leur mariage. J'avais plutôt l'impression de préparer un enterrement. Et c'est sérieux. Et puis, le lendemain, j'ai donné rendez-vous à la jeune fille et je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, est-ce que vous aimez ce garçon? Oui. Est-ce que vous avez envie de le prendre dans vos bras? Est-ce que vous avez envie de l'embrasser? Non. Oh, mais c'est pas grave, elle me dit, vous savez, moi, je mets en avant le spirituel. Je dis, écoutez, alors le spirituel, mais quand même, votre mari, vous l'aurez peut-être 40 ans dans votre chambre. Et je le dis très sérieusement, parce que croyez-moi, mes frères et sœurs, ne voyez aucun mépris dans ce que je dis. Et cette fille se marier avec ce garçon, ils ont rompu suite à l'entretien, parce qu'elle a réalisé la bêtise dans laquelle elle se projetait, parce que quelqu'un lui avait dit, Dieu m'a montré que tu te marieras avec ce garçon. Et elle, le souci, vous savez, il y a des jeunes, ils ont tellement le souci de bien faire, ils font confiance à des adultes qui se pointent en plus avec une grande détermination. Alors certains, je ne veux pas me tromper, si ça vient de Dieu, mais me rendez compte, mes frères et sœurs, on ne se marie pas avec la révélation des autres. Écoutez-moi bien, les jeunes. Écoutez-moi bien, ça vous rendra service. Croyez-moi. Et ces gens-là étaient sincères, je jette la pierre à personne. Mais quand même, ça fait mal au cœur quand on voit des situations comme ça. Et des gens qui, après, parce que ces gens-là qui sont soumis et qui sont quand même soucieux, vont rester des fois toute leur vie. Et comment faire dans des situations douloureuses à cause du désir de quelqu'un qui aurait souhaité que ces deux jeunes se marient ensemble. Pour l'amour conjugal, il faut plus que de la piété et il faut plus que de la compassion. Il faut une véritable correspondance. Cette forme d'amour qui conduit au mariage, c'est pour ça qu'il faut du temps pour qu'un jeune homme connaisse une jeune fille. Il faut vraiment du temps, on y reviendra là-dessus sur les bases du mariage. Mais cet amour qui se développe, cette amitié qui se développe, va nourrir un véritable sentiment d'estime. Moi, je crois que dans le couple, l'homme doit admirer sa femme. Ne venons pas utopiques, mais quand même. Est-ce que c'est pas bien que le mari admire sa femme, que la femme admire son mari? Est-ce que c'est pas bien qu'il y ait un sentiment d'estime? Si vous voulez pas le mot admiration, allez. Mais l'estime, est-ce qu'il ne doit pas y avoir l'estime de l'autre dans le foyer, mes frères et sœurs? Et l'amitié doit se développer dans le couple. Et aujourd'hui, souvent, les couples ne se connaissent pas parce qu'ils n'ont pas bâti cette phase d'amitié que l'on développe lorsqu'on appelle ça les fiançailles, tous ces mois où il n'y a rien au niveau du corps, mais tout est basé sur un développement de l'amitié. Vous savez, j'ai connu Isabelle avant ma conversion, dont nous avions une vie de fornication avant notre conversion. Et quand je me suis converti, donc en septembre, nous sommes restés pendant 9 mois, bien sûr, en attendant le mariage, sans rien. Et je peux vous dire que pendant ces 9 mois, ma femme est devenue mon amie parce qu'il y a eu ces 9 mois où on a partagé toutes les choses. Et vous savez, quand je vous disais que derrière chaque commandement, chaque principe biblique, il y a la sagesse de Dieu, mes frères et sœurs, croyez-le. Si vous en doutez, j'en conviens, mais croyez que derrière chaque commandement de Dieu, il y a la bénédiction. Et quand le corps prend la première place en priorité, mes frères et sœurs, il ne faut pas s'étonner que les couples, même s'ils ont une vie intime, amoureuse, etc., ils ne se connaissent pas et il n'y a pas de vis-à-vis. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Vous avez vu quand Dieu a créé l'homme, il a fait passer devant lui tous les animaux. Vous avez vu? Et il a demandé à l'homme de donner un nom à tous les animaux qu'il avait créés. Ce n'est pas de la mythologie, ça, c'est la vérité. Et une fois que l'homme a donné un nom à tous les animaux, il nous est dit qu'on peut le lire quand même. Au verset, peut-être vous ne l'avez pas retenu, la fin du verset 20 du chapitre 2, c'est important ça. Regardez, n'oubliez pas que le but c'est que l'homme ait une aide. Mais pour l'homme, à la fin du verset 20 du chapitre 2, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Il est vrai que parmi tous les animaux de la création, il y en a peut-être quelques-uns qui nous ressemblent. Un petit peu. Un petit peu. Mais, vous avouerez que nous voyons déjà la température. C'est vrai qu'on peut mettre un costume à un gorille ou à un chimpanzé. J'en ai vu une fois à la télévision, ils avaient un costume, ils peignaient, avec la cigarette allumée. C'est vrai qu'on pourrait essayer de nous faire croire qu'on descend du singe. Mais vous avez la preuve là, la preuve, pourquoi? Parce que c'est écrit quand même ça, que la première compatibilité, elle est spirituelle. C'est pour ça que nous ne devons pas nous mettre avec des infidèles qui n'ont pas développé la vie spirituelle. Vous comprenez mes frères et sœurs? Ce qui fait l'homme, c'est l'esprit. Il y a des animaux, c'est vrai, très intelligents. Et ce n'est pas parce qu'un perroquet va répéter « Bonjour Jaco » 10 fois de suite qu'il peut parler. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça nous met sur la piste de la volonté de Dieu. Le premier degré de compatibilité, on le voit dans la Bible, tout est chronologique, tout est construit. Le premier degré de compatibilité, c'est la compatibilité spirituelle. Les animaux n'ont pas d'esprit. L'homme est le seul qui puisse avoir une relation avec Dieu parce que Dieu est esprit et l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Là, c'est pour ça que la Bible dit « ne vous mettez pas avec un infidèle ». Un infidèle, la Bible, quand Paul dit « mais vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés », l'esprit de l'homme, tant qu'il n'est pas sauvé, tant qu'il n'a pas été touché par le sang du Seigneur Jésus, par la bénédiction de Dieu, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas de communion avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu sait que lorsqu'un jeune homme, une jeune fille s'engage dans une relation avec une personne qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, ça va droit au problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas grave, Monsieur Gros. Et il se convertira, moi je vous le dis. Ouais. J'en ai pas vu beaucoup, je l'ai vu ça une fois. En 28 ans de conversion, 25 ans de pastorat, je n'ai vu ça qu'une fois. La compatibilité spirituelle. Les jeunes qui voulaient vous marier, chercher en premier la compatibilité spirituelle. J'ai vu un livre dernièrement, où j'ai écouté une prédication, où le pasteur, c'est sa façon de voir, peut-être qu'il a raison, mais il mettait d'abord l'attirance physique, en premier. On va y voir, c'est important l'attirance physique, c'est important quand même. Mais je pense que quand même d'abord, c'est l'attirance spirituelle. Dieu ne nous dit pas ces choses pour nous ennuyer. Si les conseils de Dieu vous ennuient, changez le fusil d'épaule et dites, Seigneur, aide-moi à comprendre que derrière chacun de tes conseils, il y a une grande bénédiction. S'il n'y a pas de communion spirituelle avec quelqu'un avec qui on projette de se marier, moi je me demande quelle est la forme d'amour qu'on va développer. Franchement, vous ne croyez pas mes frères et sœurs? Vous qui êtes chrétiens, je m'adresse aux chrétiens, comment vous concevez la communion qu'on va pouvoir développer avec quelqu'un s'il n'y a pas du tout de spiritualité? Moi, je le vois, les femmes qui me disent « Ah, vous savez, je ne peux pas rendre grâce. Si je chante un cantique à la maison, il se moque de moi. Je ne peux pas l'amener à l'église. Il m'interdit. » Et voilà, mais on leur avait dit. Mais un homme, tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, il est gentil. J'ai l'impression que plusieurs sont d'accord. Mais moi, je vais vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça qu'on bâtit. On bâtit sur une compatibilité spirituelle. La compatibilité, elle doit être spirituelle. La compatibilité, elle doit être psychique. La compatibilité de l'âme. Je l'ai dit, Dieu nous a donné un esprit qui s'occupe des choses spirituelles, mais Dieu nous a donné une âme avec des sentiments, avec des émotions, avec un caractère particulier. Ça aussi, c'est quelque chose de sérieux. Il doit y avoir quand même une complémentarité psychique, intellectuelle. Vous allez me dire, alors un professeur de lettres ne peut pas se marier avec une femme de ménage? Écoutez-moi bien, moi je crois que si. Mais je crois qu'il faut tout faire aussi pour qu'il y ait cette compatibilité-là. De travailler de telle sorte qu'au niveau psychique, au niveau émotionnel, des fois il y a une trop grande différence. C'est vrai que quand les gens sont spirituels, ils arrivent à se faire l'un à l'autre. Moi j'ai vu des couples qui étaient vraiment mal partis, pour moi, mais ils étaient intelligents. Et ils se sont fait l'un à l'autre. Parce que je crois à la grâce de Dieu aussi, qui fait que les choses peuvent vraiment s'ajuster. Nous y reviendrons, c'est pour ça que je fais vite. La compatibilité physique, l'attirance physique, voilà, elle existe. Elle doit exister, oui ou non? Il faut que la personne avec qui vous envisagez de vous marier vous plaise. Moi, souvent, je le vois des fois, ça. Mais par rapport à cette spiritualité qui n'est pas saine. La spiritualité, elle est bonne, elle est équilibrée. Et moi, j'ai vu déjà, non, il ne me plaît pas physiquement. Mais peut-être il deviendra pasteur, alors moi ça, j'ai toujours rêvé de me marier avec un pasteur. Alors non, physiquement non, c'est pas du tout mon genre. Eh bien moi, je ne sais pas si cette méga spiritualité, elle est bonne. Mais vous riez, je vous promets que ce sont tous des faits que j'ai vécu. Quelqu'un, non, c'est pas grave, non il me plaît pas, mais moi vous savez monsieur Gou, moi c'est l'esprit qui compte. Eh bien je vais vous dire, bonjour, franchement. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un foyer. Il doit y avoir la compatibilité spirituelle, travailler la compatibilité psychique et, je crois, bénir Dieu pour la compatibilité physique. Parce que je crois qu'une femme doit plaire à son mari et un mari doit plaire à sa femme. Ne faites pas comme ce gars que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui disait, oh, maintenant je suis marié, c'est pas grave, si je ne plais plus à ma femme, c'est pas grave. Je peux. Oui, mais on l'entend ça. Je vous assure qu'on l'entend. On dit, dans le monde, pas dans l'Église, pas dans le royaume de Dieu, on dit l'amour est aveugle. Eh bien moi, vous voyez, je ne pense pas que ça c'est dans la Bible. L'amour, il discerne. On s'applique à discerner. Si l'amour est aveugle, ou si au nom de la spiritualité, on fait n'importe quoi, on construira sur du sable. Pourquoi tant de foyers s'écroulent? Parce que quand même, c'est... Parce qu'on le voit, les foyers qui s'écroulent, mais quand on le voit dans l'Église, ça fait quand même de la peine, vraiment. C'est pas vrai, dans l'Église, ça nous fait vraiment de la peine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette profondeur spirituelle. Et c'est vrai qu'on peut être attiré physiquement, s'il n'y a que l'attirance physique au départ, oh, qu'est-ce qu'elle est belle et tout, elle est jolie, moi c'est une femme comme ça que je veux. Je serais heureux avec une femme, comme disent les jeunes, vous savez, une femme canon, je serais heureux. Et il y aura peut-être beaucoup de passion, mais le problème c'est que le côté physique peut créer beaucoup de passion. Mais on ne se marie pas par passion. Tant mieux s'il y a passion, tant mieux. Mais on ne se marie pas par passion, parce que quand il n'y a que ça, ça va vite dégringoler en amour pitié, et en amour compassion, et en amour obligation. Je suis obligé de rester avec elle. Et pourtant, ça avait commencé avec la passion. Vous savez que c'est vrai ces choses. Vous savez que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a mis en avant que le côté physique. Mes frères et sœurs, c'est sérieux le mariage. Qu'il soit honoré de tous. Dans le chapitre 3, nous avons vu ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la chute. Qu'est-ce qu'ils se font? Ils se cachent. Ils se cachent derrière des feuilles de figuier. Dès qu'il n'y a plus l'harmonie dans un couple, on se cache les choses. C'est dommage quand même. Je ne sais pas, peut-être que chacun peut avoir son petit jardin secret. Est-ce qu'on a droit d'avoir un petit jardin secret chacun dans le couple? Oui? Ouais, je pense quand même. Bon. Mais je crois que quand on commence volontairement à se cacher les choses, à ne plus se dire les choses, là, ils se sont cachés derrière des feuilles. Bien sûr, c'était pour cacher leur nudité physique, mais je pense aussi qu'ils voulaient cacher leur nudité spirituelle, croyez-moi. Et qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils commencent à se cacher les choses, et ils se dérobent à la présence de Dieu. Et quand Dieu pose des questions à Adam et Ève, c'est pas pour savoir, c'est pour... Il sait très bien, le Seigneur. Il pose des questions pour retrouver la communion avec eux. Et quand on commence à se cacher les choses, quand on commence à se voiler les choses, on finit par s'accuser. Vous avez vu, l'homme il dit, mais c'est pas ma faute, c'est la femme. Et la femme dit, mais c'est pas ma faute, c'est le serpent. Voyez. Et c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il faut toujours un responsable. Et on en est toujours là aujourd'hui, ça ne change pas. Les gens n'arrivent pas, chacun, à exprimer leur responsabilité. Adam, il avait un devoir. Dieu lui avait demandé de garder le jardin. Vous l'avez lu, tu garderas le jardin. Et le serpent, il est là, à côté de Ève. Enfin, ce n'est pas Ève encore, c'est la femme. Ce n'est pas encore Ève. C'est Adam qui va plus tard lui donner le nom de Ève, parce qu'il y est, et avec la grâce de Dieu, elle va être réconciliée de nouveau avec lui. Mais mes frères et sœurs, l'homme n'a pas fait son travail. C'est pour ça que tous les deux sont responsables. L'homme doit garder le jardin. Vous savez que notre cœur dans la Bible est comparé à un jardin. Notre foyer est quand même comparé à un jardin. Et le serpent n'avait rien à faire dans le jardin parce que c'était un animal des champs. Et si nous, les hommes, les maris, nous ne gardons pas le jardin de l'affection, le jardin de l'amour, eh bien le serpent, il va rentrer. Le serpent de l'indifférence. Vous savez, lorsque l'indifférence commence à rentrer dans un foyer, moi, ce qu'il fait, ça m'est égal, ce qu'il veut. Vous savez, c'est pas bon, ça. Je crois que non. Moi, ce que fait mon épouse, ça m'intéresse. Si elle veut relever des défis, moi, je serai avec elle pour les relever, etc. Vous savez, l'égoïsme, quand l'égoïsme commence à rentrer dans un foyer, vous connaissez ce texte sur la colère, ça s'adresse à tous les chrétiens, mais il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Est-ce que ça peut arriver que dans un couple, il y ait des sujets à discussion qui font élever le ton un peu? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est jamais arrivé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me dire, moi, jamais j'ai élevé le ton devant ma femme. Ça a été tout le temps clean, vous savez. Moi, je suis spirituel. C'est jamais... Mais levez-vous, ça m'intéresse. Votre cas m'intéresse. Eh bien, quand il y a des tensions, eh bien, il y est dit... Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça coûte de dire à sa femme, tu sais, par rapport à tout à l'heure, je te demande pardon. On n'aurait jamais dû élever la voix. Pardon. Parce qu'il est dit que si ce n'est pas fait ça, on donne accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Et c'est l'image de ce serpent qui rentre dans le jardin, et là, l'aigreur commence à rentrer, et ça va aller mal. Vous savez, l'homme, il doit garder son foyer. Il doit être une bénédiction, votre foyer, mes frères. Vous devez travailler à le garder. Il ne doit rien avoir de mauvais qui rentre dans votre foyer. Pour vous, pour votre femme et pour vos enfants. Aujourd'hui, on laisse rentrer n'importe quoi. J'espère que vous veillez sur ce que vos enfants regardent à la télévision, sur Internet. Il se passe des choses aujourd'hui à la télé parce que les gosses, ils ont la télé dans la chambre, ils regardent n'importe quoi. Je ne sais pas, moi. Franchement, c'est de la folie. Vous aimez vos enfants de toute votre âme? Et vous les laissez avec la télé dans la chambre pour pas qu'ils vous cassent les pieds. Vous les laissez dans la chambre, comme ça vous êtes tranquille. Mais vous savez que le serpent est en train de rentrer dans leur cœur. Vous savez que j'exagère en rien. Veillez sur les programmes. Purée, mais s'il le faut, achetez-leur quelques vidéos de trucs intéressants, de bons petits films. Il y en a des choses qui sont bonnes à regarder. Il y a plein de choses. Nous sommes dans une société où on peut acheter plein de trucs pour que nos enfants regardent des vidéos dont on connaît la qualité. C'est vrai ou c'est pas vrai quand même? On peut pas. Vos enfants, c'est pas le bien le plus précieux après le pardon de vos péchés, Dieu? Quand même, mes frères et sœurs, Dieu avait demandé à Adam de garder le jardin. Et la femme, elle aurait dû aider son mari. Quand le serpent est rentré, elle aurait dû dire à son mari, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Il t'a pas dit de garder le jardin, mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez, je lui ferai une aide. C'est vrai que l'homme n'a pas fait son travail, mais la femme n'a pas été une aide. Elle n'a rien fait. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas écrit, vous allez me dire. Mais apparemment, elle n'a pas écouté. C'est pour ça que Dieu le leur reproche à tous les deux. Mes frères et sœurs, je voudrais conclure parce que je vois que l'heure tourne. Il faut veiller l'un sur l'autre. Je crois que lorsque l'on est célibataire, on s'applique à respecter les principes que je viens de présenter. Et lorsqu'une fois qu'on est marié, je crois qu'on prie, on dit « Seigneur, moi je veux fonder un foyer sur la base d'une compatibilité spirituelle, de caractère, d'intelligence et une compatibilité physique. » Vous savez, je vous donne un autre cas, ce qui s'est passé ici, il y avait une jeune fille, mais elle était spirituelle et mignonne. Elle fréquentait un garçon qui lui aussi était spirituel et beau. Un beau jeune couple. Ils sont venus me voir pour que je fixe la date de leur mariage. Ils sont venus me voir et bon, comme je le fais par précaution et avec sérieux, je leur ai posé quelques questions. En posant certaines questions, c'est pas un interrogatoire. Alors là, franchement, ça serait pas sérieux. Mais c'est des questions qui me permettent de voir si les gens se connaissent. Par exemple, je peux poser à la jeune fille, alors est-ce que combien vous voulez avoir d'enfants une fois mariés? Ah, je sais pas, elle veut dire, mais on n'en a jamais parlé. Et vous, ah non, on n'a jamais parlé. Je vois, pourtant, moi, il me semble que c'est un sujet que ça vaut la peine d'en parler. Parce qu'il y a des jeunes filles, elles se marient, et elles veulent de suite avoir un enfant. Mais il y a des hommes, il y a non. Hein. On va d'abord construire la maison, moi je veux finir ceci, cela, et on verra dans 7 ou 8 ans. Mais c'est ça les choses. Et cette jeune fille, je lui ai posé certaines questions, j'ai vu qu'ils avaient parlé de rien. De rien. Pourtant, ils priaient ensemble. Ils aimaient prier. Ils aimaient là. Ils étaient dans l'église. Ils servaient le Seigneur. Des jeunes qui étaient, franchement, ils étaient bien. Mais ils avaient tellement développé la compatibilité spirituelle qu'ils en avaient négligé tout le reste. Et puis, quand même, le lendemain, j'ai téléphoné à cette jeune fille. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez venir me voir? J'ai dit, vu les réponses que vous m'avez données, je m'inquiète quand même pour votre futur foyer. Alors je lui ai dit, est-ce que vous avez pensé, puisque vous êtes antillaise et que votre fiancé est africain, est-ce que vous avez pensé au niveau professionnel, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, elle me dit, non, j'en avais parlé. Jamais on n'a parlé de ça. J'ai dit, moi je vous conseille d'en parler. Et normalement, il va vous dire, écoute, chérie, si on a du travail à Toulouse, on restera à Toulouse. Si on trouve du travail à Paris, on ira à Paris ou aux Antilles. On ira là où il y a le travail. Elle me rappelle le soir en pleurant. Elle me dit, monsieur Go, il est venu en France. Passé son diplôme d'ingénieur, il est venu chercher sa femme et après le mariage, il part dans son village en Afrique. C'est comme ça. Non négociable. Mais parce que lui, dans son esprit à lui, il était venu en France faire ses... Un gars très sérieux. Très sérieux. Il voulait être ingénieur, il était le meilleur de sa promotion, il avait que des bonnes notes et il aimait Dieu. Mais lui, il avait un projet, son diplôme, travailler pour son village en Afrique, dans un but bien précis, social, et très intelligent. Et il voulait prendre une femme, une jolie femme, et voilà. Et après le mariage, en Afrique, dans le village, elle m'aidera. Et elle a paniqué, ils ont rompu. Et je peux vous dire, quelques années après, cette jeune fille a rencontré un garçon avec qui elle a eu le réflexe de discuter, je comprends. Et ce garçon est spirituel, il n'est pas des assemblées de Dieu, il est d'une autre dénomination, c'est un garçon qui est venu me voir, un garçon très bien, très sérieux. Lui est rentré en Afrique et j'espère que par la grâce de Dieu, il a fondé un foyer, peut-être avec une fille de chez lui. C'est peut-être pas plus mal, ce que je lui ai conseillé. Vous comprenez mes frères et sœurs? C'est grave quand même ça. Le spirituel, travaillons-y, soyons spirituels, mais ne négligeons pas le côté humain, parce que le côté humain n'est pas forcément charnel. Le charnel, c'est charnel. Mais le côté humain, ça fait partie des choses de Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Le spirituel inclut tout le côté humain. Alors mes frères, mes jeunes frères, si vous voulez vous marier, mariez-vous avec ce désir d'être responsable. De dire oui, on aura des enfants. C'est une responsabilité, les enfants. C'est une bénédiction. Mais pour certains, aujourd'hui, ce n'est pas une bénédiction. C'est un fardeau d'avoir des gosses. J'en ai marre des gosses. Eh ouais. C'est pas la volonté de Dieu qu'on en ait marre de nos enfants. Je pense que c'est une bénédiction. Ma sœur, si vous voulez fonder un foyer, est-ce que vous voulez être prête, les jeunes filles, à être une aide, prête à lui donner des conseils, prête à pas qu'à lui faire des reproches. On entend des fois des femmes, moi je sais, je le vois, que les défauts. Tu sais rien faire, tu vois rien. Si j'avais su, c'est sûr qu'un homme qui entend ça tout le temps, tu sais rien faire, tu sais pas travailler. C'est sûr que bon, je veux bien croire qu'il faut faire remonter les besoins. Mais je ne pense pas quand même qu'une femme sera une bonne aide, c'est le fait que lui faire des reproches. Bien sûr que vous savez nous les faire. Faites-nous avec beaucoup de douceur. Tante Isabelle. Ouais. Elle le fait. Ouais. Mais moi, je termine avec cette parole. Je vous le dis vraiment très sérieusement. Si vous êtes égoïste, ne vous mariez pas. Si vous ramenez tout à vous, si vous pensez qu'à vous et moi je veux que ce soit comme ça, je me marierai, ok, mais Laurent ira faire ce que je veux. Écoutez, ne vous mariez pas. Si vous êtes égoïste, vivez bien votre célibat. Ce n'est pas une tare d'être célibataire. On peut très bien vivre son célibat, on le verra mardi. Mais mes frères et sœurs, si vous êtes égoïste, les jeunes, je vous en supplie, ne vous mariez pas. Quand on se marie, il y a une grande part de renoncement. Et ça, c'est la vérité. Et c'est comme ça que l'on avance. Voilà, on va conclure en priant pour que ces études, ces exhortations amènent l'Église vraiment à honorer le mariage.